Chapitre 33. Prendre ses précautions pour le jour où le testament du marquis serait attaqué en justice était faire preuve de prévoyance. Mais, de notre côté, c'était aller un peu vite. Avant de s'inquiéter de savoir si ce testament serait attaqué et comment on pourrait le défendre, il fallait qu'il fût, et justement, il n'était pas. C'était donc à le créer qu'elle devait d'abord s'employer. Lorsqu'il aurait une forme certaine, elle verrait à l'entourer de toutes les défenses qui pourraient le protéger contre des attaques extérieures. Il y avait d'autant plus d'urgence à procéder ainsi qu'elle se voyait menacée par Louis, sans trop savoir à quelle surprise elle était exposée, ni quelles armes celui-ci comptait employer pour recommencer, ou plus justement, pour continuer la lutte. Ce qu'elle avait arrangé dans son voyage à Paris pour se débarrasser du substitut n'avait en effet pas réussi. Louis avait bien été nommé à Grasse, mais il n'avait pas accepté. En recevant la nouvelle de cette nomination extraordinaire, il avait été immédiatement trouver son procureur général pour lui demander ce qu'elle signifiait et à qui il la devait. Le procureur général avait répondu qu'il n'en savait absolument rien et qu'elle s'était faite par-dessus sa tête à la chancellerie sans qu'il eût été consulté, sans même qu'il eût été averti. Alors Louis avait compris d'où le coup venait et il s'était franchement expliqué avec le procureur général en lui disant qu'il n'acceptait pas cet avancement et qu'il donnerait sa démission plutôt que de quitter Condé. Le procureur général avait écrit au ministère de la Justice. Du ministère, on avait répondu au procureur général et le résultat de cette correspondance avait été que Louis, non acceptant, serait maintenu dans ses fonctions de substitut à Condé. Prévenu de ce qui se passait, le général Poirier avait écrit à Clémence en lui disant qu'on ne pouvait pas envoyer de force M. Méraud à Grasse, ni lui faire accepter malgré lui un avancement qu'il s'obstinait à refuser. Puis, en bon parent qu'il était, et surtout en homme d'expérience qui connaît le fond des choses, il avait terminé sa lettre par quelques conseils pratiques. Si vous tenez quand même à ce que ce jeune homme ne reste pas substitut à Condé, il faut procéder avec lui par destitution et non par mutation. Sans doute, cette destitution serait assez difficile à obtenir, car ce petit magistrat, assez sot pour déplaire à une charmante femme telle que vous, a des notes excellentes. Mais enfin, il ne serait pas absolument impossible de l'arracher. Pour cela, il faudrait le compromettre au point de vue politique. Si vous pouviez me fournir la preuve, ou l'à peu près d'une preuve, qu'il est en relation suivie avec le parti orléaniste ou légitimiste, mieux orléaniste, nous avons besoin des cléricaux, je parviendrai peut-être à le faire destituer, ou tout au moins à l'obliger de donner sa démission. Mais pour cela, il faudrait m'apporter vous-même cette preuve, afin que nous traitions cette affaire de vive voix et dans le tête-à-tête. Clémence ne s'était pas mise en peine de savoir si elle pouvait ou ne pouvait pas se procurer cette preuve. Peu lui importait en effet que Louis fût destitué. Ce qu'elle voulait, c'était qu'il fût éloigné de Condé, et dès lors qu'on ne l'envoyait pas à l'autre bout de la France, le but qu'elle poursuivait ne pouvait pas être atteint. Destitué, Louis resterait à Condé, et l'injustice commise à son égard lui vaudrait la sympathie publique. Le beau résultat, en vérité. D'ailleurs, elle avait mieux à faire que de s'en aller à Paris, même pour une journée. C'était à Rudemont qu'elle devait désormais agir, c'était sur le marquis, pour lui mettre à la main la plume avec laquelle il devait écrire le testament qu'elle lui dicterait. Ce fut alors que la consultation, qui, pendant son séjour à Paris, lui avait été donnée par l'agent d'affaires Caffier, s'imposa à ses méditations. Tout d'abord, cette consultation lui avait paru absurde et l'estime qu'elle professait pour l'agent d'affaires s'était trouvée considérablement diminuée par ce témoignage de pusillanimité. Se couvrir au moyen d'une personne considérable ou, à défaut de cette personne, par un établissement respectable, avait dit Caffier. C'est-à-dire abandonner à d'autres une partie de cette fortune qui lui coûtait tant de peine. Allons donc, cela n'était pas sérieux. C'était la vie d'un trembleur que la peur des juges et de la justice affolée, c'était la prudence du chat échaudé qui craint jusqu'à l'eau froide. mais l'accueil qu'elle avait reçu et tout ce qui s'était passé depuis avait abaissé cette superbe assurance. Pas si pusillanime qu'elle l'avait cru tout d'abord l'agent d'affaires. Prudent, au contraire, avisé, perspicace, pesant le pour et le contre, un homme pratique, sachant se résigner aux concessions lorsqu'en somme elles tendent à assurer un avantage certain. Sans doute, l'idée d'un partage n'était pas pour lui plaire, car depuis longtemps elle avait fait ses calculs, et tout ce qu'elle prendrait sur cette fortune, qu'elle s'était habituée à considérer comme sienne, dérangeait ses combinaisons. Mais enfin, c'était un sacrifice indispensable, et pour sauver le navire avec la plus riche partie de sa cargaison, il ne fallait pas hésiter à jeter par-dessus bord quelques centaines de mille francs. D'ailleurs, dans ses arrangements primitifs, elle avait disposé d'une certaine somme pour être donnée en dot à Denise, soit que celle-ci se fît religieuse, soit qu'elle épousât Louis. En ne donnant plus rien à Denise et en léguant par testament cette somme à l'établissement ou au personnage qu'elle choisirait, rien, en fin de compte, ne serait changé à son total. Denise n'aurait rien, voilà tout, et franchement, cette expectative n'était pas pour la faire hésiter. Enrichir Louis, après tout ce qu'il avait essayé, ce serait vraiment trop de grandeur d'âme. Il s'aimait, il n'avait pas besoin d'argent pour être heureux. Lorsqu'elle eut admis cette idée de partage et s'y fut définitivement fixée, elle se mit à chercher sur qui elle laisserait tomber sa générosité. Parmi les amis du marquis et dans son entourage, elle ne trouva personne qui réunît les conditions qu'elle exigeait. Celui-ci n'avait pas de prestige, celui-là ne lui inspirait pas de confiance. Alors, elle se tourna vers un établissement qui put recevoir un legs important et surtout qui fut en bonne situation pour se le faire délivrer par la justice, et tout de suite, sa pensée se porta sur le couvent de Sainte-Rutilie. Non seulement ce couvent était un établissement respectable, digne sous tous les rapports d'être enrichi par de pieuses générosités, mais encore, il avait cet avantage considérable d'être dirigé par un homme habile entre tous, puissant dans la contrée, et dont toutes les entreprises, si difficiles qu'elles fussent, si impossibles qu'elles parussent, avaient toujours été couronnées de succès. Elle irait donc à Annebault s'entendre avec l'abbé Guillemite. Ayant déjà fait des affaires avec lui, elle savait comment le prendre.